bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global FinTech Community. Je suis John Salumu et aujourd'hui je reçois pour vous Ludovic Laborde. Il est CEO et cofondateur de Eloa. Eloa est une plateforme qui vous permet d'évoluer au sein de la seule plateforme de financement regroupant l'ensemble des tâches qui définissent votre activité de courtier, traitement d'un dossier de crédit, collaboration avec vos apporteurs, partenaires bancaires et pilotage de votre activité, le tout avec des fonctionnalités entièrement paramétrables et des interfaces ergonomiques. Aujourd'hui, j'ai la joie de discuter un peu plus sur tous ces aspects avec Ludovic. Bonjour Ludovic.
Bonjour John et merci de me recevoir dans ta belle émission.
Merci, je t'en prie Ludovic. Comment tu vas aujourd'hui?
Je vais très bien, très bien. Une petite période de congé a permis de bien se reposer pour attaquer une rentrée avec de beaux enjeux et de beaux produits qu'on va pouvoir mettre encore en avant à partir de septembre. Et toi aussi, tu vas bien, j'espère?
Je vais très bien également. C'est vrai qu'avec avec le climat en Afrique du Sud à Cape Town ces derniers temps, c'est vraiment pas facile avec l'hiver, mais bon, c'est le temps, hein, c'est la saison. faut juste se garder au chaud et puis mais ça va sinon, ça va très bien.
Tant mieux.
En tout cas, je suis très ravi, Ludovic. Et avec toi, on va discuter un peu plus sur plusieurs aspects. Mais j'aimerais que tu commences un peu par nous parler de toi, nous parler de ton parcours professionnel. Parle-nous un peu plus de ton parcours professionnel.
Alors, c'est un parcours qui est un peu atypique, car je suis un vrai autodidacte.
OK.
J'ai pas spécialement fait de formation ou de diplôme pour arriver à être aujourd'hui CEO d'Eloa. En tout cas, pour te présenter, j'étais à l'époque beaucoup investi dans ma ville de naissance, qui est Longjumeau, qui est une ville de banlieue parisienne dans 91, dans l'Essonne, en France. Mmh. Et je faisais aussi un doc de sociologie, tu vois. Mmh. Donc j'ai fait des études pour être électrotechnicien, mais en fait c'était pas un métier qui m'intéressait. Donc j'ai préféré continuer à me former intellectuellement, on va dire. Et la sociologie pour moi était un axe intéressant parce que ça intégrait tout type de connaissances avec l'économie, les mathématiques, statistiques et autres. Mmh. Mais je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était peut-être avoir un métier qui permettait d'intégrer ma créativité. Mmh. Voilà, je reste un créatif. Et donc, vu que j'étais investi dans ma ville et je faisais mon doc de sociologie, j'étais investi au niveau associatif et il y avait le maire adjoint qui était à la culture de la ville avec qui j'échangeais régulièrement pour mon activité, on va dire, d'associatif. Mmh. Et il avait créé sa propre web agence. Donc, mmh. Il crée des sites internet pour principalement les communes à l'époque. Il a créé ça en 96. Okay. Et en 2000, il décide de recruter parce que sa petite web agency commence à grossir et c'était super. Mmh. Et il m'a demandé si j'étais intéressé pour devenir webmaster développeur. À l'époque, John, tu sais que le mot développeur full stack et autres n'existait pas. Il n'y avait que webmaster entre guillemets au début des années 2000.
Ouais.
C'était assez light comme connaissance. Hein, vous avez du HTML assez basique, la gestion de base de données assez basique. Mmh. Et je lui dis, c'est un métier qui m'intéresse parce qu'on voyait le web se développer fortement avec des levées de fonds, des catastrophes, mais avec une envie de révolutionner aussi ce nouveau système d'échange en tout cas. Mmh. Et il m'a demandé si j'avais un ordinateur chez moi, donc je lui ai dit que non. Donc il m'a dit, ah, ça commence à être problématique. Si j'avais déjà travaillé sur ordinateur, je lui ai dit que non. Mmh. Il m'a dit, je sais que tu es quelqu'un d'investi et quand il fait quelque chose, il le fait à fond et bien. Mmh. Je te propose de venir une après-midi au sein de ma société. Mmh. Je vais te présenter le HTML. Mmh. Et en une heure, et après tu te laissais 3 heures pour refaire une page identique à ce que je vais te présenter.
Ok.
Voilà, donc là t'imagines une grosse pression quand même.
Ouais.
Parce que j'avais 22 ans. Mmh. Et donc j'avais acheté un bouquin parce que tu sais que tu n'avais pas internet, c'était très light comme en termes de d'information.
Donc
soit t'allais à la bibliothèque, soit t'achetais un bouquin. Et donc j'ai trouvé un bouquin sur la HTML et j'ai bouquiné une semaine avant notre rendez-vous. Uh-huh. Je suis resté 4 heures chez lui et au bout de 4 heures, il m'a dit, c'est bon, t'as réussi, été embauché. Et donc, j'étais embauché en 2000 comme webmaster. Et donc, j'ai appris, du coup, à coder, on va dire, à créer des bases de données, à coder, à faire de l'HTML, à faire du design aussi, parce que, bah, il fallait tout faire à l'époque, hein. C'est aussi, on était un peu tout type de métier. C'était un peu le couteau suisse, hein, à l'époque du web. Et j'ai travaillé chez lui pendant 6 ans.
OK.
Ouais, et ça a été une belle expérience. En fait, ça a été ma formation. C'était ma formation scolaire que je n'ai pas fait, même s'il y avait peu de formation et peu d'école à l'époque, hein, pour faire du web. C'était souvent soit des informaticiens, soit des autodidactes. Et donc, ça a été très formateur pour moi. Donc ça, c'était vraiment ma belle expérience parce qu'en plus, c'était un homme investi, engagé, charmant, instruit. Ce monsieur était doctorant en chimie, t'imagines?
Waouh. OK.
Donc, pareil aussi, lui, autodidacte dans le développement informatique.
Waouh. En tout cas, non, mais c'est vraiment surprenant de comprendre cet aspect-là. Et donc, tu es passé de là jusqu'au point où un jour tu t'es retrouvé en train de faire partie des cofondateurs d'Eloa. Comment tu es arrivé là-bas?
Alors, en 2006, j'ai quitté cette société et j'ai voulu faire comme avoir un diplôme. Et donc, j'ai fait une VAE, c'est une validation des acquis en France, ça s'appelle, qui permet, suivant un nombre d'années dans ton travail, de pouvoir directement intégrer une année scolaire qui permet d'avoir un diplôme. Et donc, j'ai intégré une licence marketing et digital sur Internet. Et donc, j'ai passé cette licence-là de 2007 à 2008. Et donc, il y avait un stage entre janvier 2008, février 2008 et juin 2008. Et du coup, pour faire ce stage, en fait, au lieu de postuler comme stagiaire, j'ai postulé pour avoir un job. Okay. Et du coup, j'ai rejoint à l'époque Price Minister, qui était une des marketplaces françaises les plus connues, en janvier 2008. Et j'étais directeur de projet au sein de son pôle immobilier. Et donc, ça a été, on va dire... ma deuxième formation, où là, j'ai intégré, donc, ma première société, on était 5-6 salariés, donc c'était une petite société. Et là, j'ai intégré Price Minister, où il y avait quand même 250 salariés. Et donc là, j'ai pu asseoir ma formation sur tout l'aspect aussi digitalisation, process, marketing, acquisition, contact, transformation, tous les termes qui sont arrivés, qui sont commencés à structurer et à processer ce métier du web, entre guillemets, au sens large. Et donc, j'ai fait ça jusqu'en janvier 2010. Et en février 2010, j'ai montré ma propre société avec deux associés. Et j'en avais la direction générale. Et là, on avait créé une plateforme SaaS déjà à destination des professionnels de l'immobilier qui permettait de pouvoir déposer plus rapidement, communiquer leurs annonces de vente, de transactions dans l'immobilier, derrière d'avoir une plateforme SaaS de transformation du lead, de captation et de transformation du lead. On va dire que mon premier vrai poste d'entrepreneur, c'était en 2010 comme directeur général. Et donc, ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur. Et ça correspond plus à mon ADN personnel.
Waouh, en tout cas, non, mais ça, c'est vraiment un parcours qui est particulier, je dois te le dire quand même, hein. Le fait de savoir aussi que tu as été, tu viens d'une formation qui est autodidacte et tu arrives au point où tu es aujourd'hui, où tu gères une grande entreprise, une aussi grande entreprise que Eloa. Tu sais, je me demande quand même, je me demande quand même comment tu as su apprendre toutes ces choses qui te permettent aujourd'hui de gérer cette compagnie. Le processus d'apprentissage pour toi en tant qu'autodidacte qui a pu former ces grands leaders que tu es devenu aujourd'hui au point où tu arrives à gérer cette grande compagnie qui est Eloa. Comment tu trouves que le processus d'apprentissage a été de ton côté?
Alors je te remercie pour cette bonne question. En fait, il y a deux choses, je pense, qui sont ancrées en moi. C'est je suis curieux.
Ok.
Donc curieux, à l'écoute. Et la deuxième chose qui est pour moi, mais aujourd'hui, c'est le temps.
Ok.
Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Donc tu vois, par rapport au web, je commence à être un vieux du web, on va dire. Sauf que ce sont les années aussi qui te permettent de mieux te structurer, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, d'avoir une société maintenant où on est 15 collaborateurs. Alors ça reste, je te remercie pour dire une grande société, mais on est une société en tout cas en développement, ça c'est vrai. Alors qu'auparavant, j'ai pu gérer, diriger des sociétés où on était au maximum 7-8 personnes. Donc ça reste que double en termes de ressources humaines, de collaborateurs, mais doublé déjà en quelques années, c'est déjà une belle étape. Et c'est aussi, je pense, voilà, continuer à avoir cette curiosité, cette approche de comprendre, d'apprendre. L'apprentissage, je crois que c'est toute la vie. Et derrière, le temps te permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et de faire moins d'erreurs aussi, surtout dans ta construction et dans l'architecture que tu veux donner à Eloa, cette nouvelle société qu'on a créée il y a maintenant plus de 2 ans.
Non, je vois, je comprends. Et le fait que tu sois entrepreneur aussi au sein de la France, j'aimerais savoir un peu ton point de vue sur cette chose. Il y en a qui pensent que la France particulièrement était un pays qui, d'une manière, freine un peu l'entrepreneuriat, le développement des fintechs. Toi qui aujourd'hui es CEO de fintech et qui évolue en tant qu'entrepreneur dans le pays, qu'est-ce que tu penses de cet aspect de voir les choses au sein de fintech, mais au milieu quand on se focalise sur la France particulièrement?
Oui, le marché français, il a, pour moi, il y a deux freins entre guillemets. Même si on peut toujours se développer, on y arrive. Il y a des très belles aujourd'hui licornes qui sont en train d'exploser. Le premier frein pour une fintech, c'est la réglementation. Aujourd'hui, il y a quand même un monopole bancaire en France, hein. Il y a à peu près entre 5 ou 6 banques suivant comment on compte. Et donc ça reste, pour un pays de plus de 60 millions d'habitants, ça reste faible en termes de compagnies bancaires, en tout cas et donc du coup la réglementation est un peu sclérosée entre guillemets par ces compagnies, parce qu'il n'y a pas de nouvel entrant, il n'y a pas de ferveur sur l'innovation, sur la digitalisation, sur la nouvelle technologie, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Par rapport, si tu connais très bien aussi d'autres pays européens et anglo-saxons, et on va parler de l'Angleterre où il y a X dizaines et dizaines de banques. Et donc ce qui crée aussi une effervescence intellectuelle et digitale. Aujourd'hui en France, il y a moins cette effervescence, clairement. Et donc du coup, ce monopole bancaire bride un peu aussi le développement des fintechs. Et le deuxième axe, et on le voit, c'est l'accompagnement financier. Les levées de fonds en France, la dernière année, il y a eu de très belles levées de fonds avec des fintechs qui sont devenus des licornes. Mais ces levées de fonds ont été faites par des fonds étrangers, principalement. Et donc là, on sent commence à avoir une réduction de voilure sur l'investissement dans les fintechs, parce que tu sais que les fonds d'investissement tournent aussi leur portefeuille. Mais du coup, pour faire exploser un ou plusieurs acteurs au niveau européen, voire mondial, aujourd'hui, la France est encore dans cette problématique de il faut de l'argent. On le sait. Si tu veux développer un usage, si tu veux développer un changement, si tu veux changer une réglementation, une utilisation, peu importe, il faut beaucoup, 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 beaucoup de moyens. Alors, bien pour les prouver, c'est déjà sur son pays au niveau national. Et après, si ça marche au niveau national, tout de suite, on peut, normalement exploser au niveau européen, voire international. Et aujourd'hui, la France a ce blocage. Blocage réglementaire et financier. Et c'est triste parce qu'on voit qu'il y a des idées merveilleuses, il y a énormément d'entrepreneurs, il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France. Et ça, c'est génial parce que ça crée de la créativité, de l'effervescence. Même si c'est créé pour un an une boîte et qu'elle se plante, vous avez imaginé quelque chose, vous avez mis votre pierre à l'édifice et ça ne fait qu'accélérer. Et je pense qu'il faut avoir un accompagnement à tous les niveaux, et même si on a la BPI qui est, on va dire, la banque publique française, qui est une très bonne banque publique pour commencer à amorcer les bonnes idées et les entrepreneurs, derrière il faudrait pouvoir sortir des licornes au niveau mondial, et ça ferait une vraie différence aussi bien sur l'aspect digitalisation et de la formation qui est très bonne en France, hein, des ingénieurs tech qui sont extrêmement bons, les idées sont là, il manque juste un peu de moyens et un peu d'engouement, et je pense que la France pourrait être un des pays licornes au monde.
En tout cas, non, ça, je crois fortement également qu'il y a beaucoup de potentiel que l'on peut voir particulièrement pour le marché de la France. Mais la réalité que tu as mentionné aussi, le fait du monopole bancaire qui bride les fintechs aujourd'hui au sein de la France quand même. Tu sais, je suis en train de me poser la question, je me dis, pour vous particulièrement, qui êtes au sein de ce marché-là, comment vous faites pour surpasser cette réalité? Je parle de vous et je parle des lois. Comment vous faites pour surpasser cette réalité?
Alors nous on, entre guillemets, on a de la chance, on a fait le choix de développer, construire une plateforme SaaS. Mm-hmm. Une plateforme SaaS, c'est vraiment à destination des intermédiaires financiers français. Mm-hmm. Alors principalement aujourd'hui des courtiers, et on commence aussi à mettre à disposition nos plateformes auprès d'établissements de crédit. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les courtiers, principalement nos clients, sont un peu bridés sur sa réglementation par rapport au crédit immobilier. Mm-hmm. En France, qui est un peu le petit plus que les banques françaises, le monopole bancaire veut garder un peu et pas trop intermédiaire, on va dire, entre guillemets. Mm-hmm. Et donc, nous, la force des lois, c'est tout de suite d'avoir intégré dans notre plateforme SaaS, mm-hmm, les quatre types de métiers. L'immobilier, le crédit, mm-hmm, immobilier, le crédit consommation, le crédit professionnel et le groupement de crédit. Mm-hmm. Ce qui permet à ces intermédiaires financiers, nos clients, de pouvoir tout de suite se diversifier, mm-hmm, et d'accompagner leurs propres clients tout au long de leur vie, leur projet de vie. Mmh. Tu le sais bien, John, quand on achète un bien immobilier, une maison, oui, et ben par la suite, souvent on a des travaux, de l'amélioration, de la rénovation, et ben avec un crédit travaux, mmh, ce que peut proposer Eloi, automatiquement, on peut continuer à accompagner son client tout au long de sa vie personnelle, mmh, professionnelle aussi. Avec un crédit professionnel, si le client il a une société où il a besoin d'avoir la trésorerie ou acheter des murs, mmh, l'intermédiaire financier, grâce à la plateforme Eloi, peut lui proposer aussi l'accompagner sur le financement. Mmh. C'est là notre force, c'est vraiment d'être au cœur même du système, d'un montage d'un dossier de crédit, mmh, jusqu'à l'accompagnement auprès d'un partenaire bancaire intégré. Donc, on a vraiment cette force-là dans notre plateforme.
Ok. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant de noter. Et si tu devrais parler un peu plus par rapport à par rapport au service que vous offrez, tu as mentionné que la plus grande force des Eloi, c'est vraiment au sein des financements. Et si tu devrais t'étendre un peu plus par rapport à cela pour plusieurs autres personnes qui peut-être ne sont pas encore acquainted, comme on le dit, à l'utilisation et même à la manière de faire des choses de Eloi. Si tu dois t'étendre un peu plus par rapport à cela et parler un peu plus aussi de financement et des points particuliers que vous offrez, qu'est-ce que tu dirais en plus?
The future of work is constantly shifting. How can HR leaders stay on top of the latest trends to better lead their global workforce to success? Serva Soundbites podcast explores current trends and the hottest topics around global employee relocation and the future of work. We connect with industry experts, HR leaders, and innovative thinkers to share their insights and stories. Find us on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your business podcasts.
Alors, nous, en fait, ça va de l'onboarding client, mm-hmm, jusqu'à la gestion de la facturation, mm-hmm, pilotage aussi de l'activité, du commissionnement, bon, de commissionnement. Donc, c'est une plateforme qui est assez complète, mm-hmm, et donc qui permet d'onboarder tout type de client, en particulier aux professionnels, mm-hmm, de lui monter un dossier de prêt, de lui créer un espace emprunteur, mm-hmm, de réaliser différents types de plans de financement, mm-hmm, clairement, les optimiser. Mmh. Derrière, de les envoyer en banque directement, d'avoir un accord bancaire, d'en intégrer dans la plateforme, mmh, de faire valider l'offre bancaire auprès du client dans la plateforme, mmh, et derrière d'aller jusqu'à la partie facturation auprès du partenaire bancaire s'il y a un commissionnement, auprès du client s'il y a, mmh, des frais d'honoraires, mmh, jusqu'au pilotage de l'activité. Donc ça va beaucoup plus loin qu'un simple logiciel métier, ça va vraiment dans la globalité de l'intermédiation financière en France, et clairement de pouvoir aussi intégrer automatiquement tous ces clients avec des iframes, mm-hmm, qui peuvent être positionnés sur des fronts de nos partenaires clients d'Eloi. Mm-hmm. Ça permet d'aller très très loin, très très vite. Et pour preuve, aujourd'hui, en un an, on a plus de 2200 professionnels qui sont abonnés à la plateforme Eloi.
Ok.
Et c'est 25 000 crédits qui sont montés chaque mois sur la plateforme.
Ok. Ok.
Donc, on commence à être un acteur référent, mm-hmm, sur ce marché, en tout cas.
En tout cas, non, mais ça, c'est très intéressant. Et pour l'instant, vous couvrez seulement le marché de la France?
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour le moment, on est encore focus sur le marché français, mais l'idée, c'est qu'on peut ouvrir à des pays francophones, la Suisse, la Belgique, qui sont. On a eu quelques échanges avec certains acteurs qui sont dans ces pays-là, qui sont vraiment très intéressés par notre plateforme, parce que là, elle est très centrée sur le crédit et demain, elle va être aussi centrée sur l'immobilier. Donc, ça va ensemble, hein, tous ces projets-là. Et avec l'assurance aussi. Et donc, l'idée, c'est qu'on soit une fintech, proptech, assurtech courant 2023 et après, derrière, de pouvoir un peu aller voir nos voisins qui ont aussi des vraies envies, des vrais besoins sur ces activités et qui ont besoin d'un logiciel SaaS pour pouvoir accélérer, digitaliser complètement leur parcours et leur accompagnement client.
Non, je comprends parfaitement. Et tu sais, j'étais sur le point de te demander quels sont les plans que vous avez en ce qui concerne l'augmentation des d'utilisateurs chez vous.
Oui, donc là, nous, on est sur deux axes. Donc, sur la partie crédit aujourd'hui, on a 2200 utilisateurs et on se focus sur 3000 utilisateurs début 2023.
OK.
Ce qui va correspondre à peu près à 30-35% du marché français pour le crédit, c'est énorme. Et on va lancer une offre sur le marché de l'immobilier fin d'année, où le potentiel d'utilisateurs peut atteindre les 10-15 000 utilisateurs. Donc, vraiment, notre but, on est focus sur le marché français. Le but, c'est d'arriver à 15-20 000 utilisateurs à fin 2023. Donc là, on est sur une bonne dynamique parce qu'on a un bon positionnement SEO. On a une marque qui commence à être de plus en plus connue. On est présent sur des salons très métiers. Donc ça, c'est une des forces de l'AOA aussi, d'avoir cette patte un peu marketing, digitalisation et force de proposition aussi parce qu'on développe énormément de nouveautés, de fonctionnalités. Tu sais, tu connais ça aussi bien que moi, on travaille en méthode agile, en sprint. Et voilà, on met en production des améliorations, de nouveautés tous les 15 jours sur cette plateforme Eloa. Et pour ça, bien sûr, il faut aussi recruter parce qu'on n'arrive pas à avoir ce nombre d'utilisateurs sans recrutement. Et donc, on va recruter 5 collaborateurs entre la fin d'année et début d'année prochaine. Que ce soit aussi bien sur la partie retail que sur la partie IT tech. Parce qu'il faut qu'on puisse encore mieux se structurer pour pouvoir bien gérer cette croissance et notre beau développement qu'on a aujourd'hui.
Non, mais c'est très bien d'avoir de projets qui sont aussi grands. Et, je suis très très content de voir aussi que vous avez des plans également de grandir et même de faire grandir l'équipe. C'est qu'il y a une très 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 bonne chose pour une entreprise aussi en très bonne phase de développement comme Eloa. Et une chose quand même que je me demande également à Ludovic, est-ce qu'il y a des formes de challenge en ce qui concerne la commercialisation ou le marketing ou même la vente du type de produits que vous offrez? Quel genre de conseils vous pourriez donner à quelqu'un ou un CEO qui nous écoute en ce moment, qui offre pratiquement le même genre de service que vous offrez, mais un peu essayer de vous concentrer un peu plus sur par rapport aux stratégies marketing ou par rapport à comment brider les challenges qu'il y a lorsqu'il s'agit de la commercialisation?
Ah, c'est la recette miracle n'existe pas. John, tu le sais, c'est plein de petits quick wins et plein de petites actions qui font qu'à un moment donné, on a une belle attractivité comme peut l'avoir la plateforme Eloa aujourd'hui. C'est déjà avoir un plan marketing assez structuré. Donc nous, on communique deux fois par semaine sur le marché, notre marché à nous, le crédit, et aussi sur l'apport de la plateforme Eloa sur ce marché. Et il faut être régulier, récurrent. Voilà, les gens doivent s'attendre à ce rendez-vous chaque mardi, chaque jeudi. On a le petit information, les nouvelles fonctionnalités, le contenu métier qu'Eloa va pouvoir nous transmettre et nous fournir. Après, derrière, c'est aussi pour la partie tech de la plateforme, c'est intégrer une méthode agile. Il faut avoir un développement continu avec une roadmap qui soit bien, bien structurée et qui suive bien cette verticale du crédit. Il ne faut pas s'éparpiller à vouloir développer plein de petits outils, plein de petites fonctionnalités qui n'ont pas de sens pour les clients. Connaître le client, connaître son marché, c'est d'avoir un bon développement qui est structurant et qui vous sécurise dans l'utilisation de votre plateforme. Et là, aujourd'hui, quand on a une roadmap de développement IT sur 3 mois déjà qui est fixée. Donc, tu vois, c'est le quotidien, développer, penser le quotidien tout en maîtrisant sereinement et en structurant l'avenir. Et ça, je crois que c'est notre bonne recette chez Eloa.
En tout cas, c'est une très, très, très bonne recette. Et je pense que la plupart d'entre nous, et même ceux qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment également, arrivent à noter les points qui sont assez importants, dont il faut tenir et prendre en considération également. Moi, je suis content de savoir comment vous faites les choses à Eloa. Et même une chose particulière également, que je pense qui est aussi importante à noter pour vous, c'est que vous travaillez en compagnie de votre femme également.
Oui, c'est. Merci John de souligner. Oui, on est un couple, et ce qui est assez rare dans la tech.
Ouais.
Surtout dans la fintech, en plus, qui est assez récent. Hein. Donc, on a un couple, de quarantenaire. Et donc c'est aussi sympa parce que ça a des bons côtés, parce que la confiance est là. Uh-huh. Mais quand il y a des problématiques à gérer, tu sais qu'il peut y avoir quelques tensions. Voilà, il y a des plus et des moins, mais c'est vrai qu'on est assez atypique aussi là-dessus, parce qu'on a un couple à la direction de cette magnifique société qu'est Eloa.
En tout cas, non, mais c'est vraiment intéressant. Ah, je veux te dire la vérité quand même, c'est pas quelque chose qui est assez, c'est pas une chose qui est assez commune au sein de l'industrie fintech, mais c'est vraiment une chose très particulière. Et quand il y a des tensions, en tout cas, vous arrivez à gérer les problèmes facilement, ça n'arrive pas à déranger. Comment la réalité de la situation au sein de la famille?
Ça a pu l'être par moment, en grandissant et en, mm-hmm. en vieillissant aussi. Hein, comme mm-hmm. voilà, l'âge donne souvent un peu de patine, un peu de matière et donne raison avec le temps à être un peu plus humble et un peu plus cohérent et à prendre aussi en compte l'autre. Et mm-hmm. donc aujourd'hui, on a de moins en moins de tensions personnelles mm-hmm. et ce qui fait que ça améliore aussi le côté professionnel du coup.
Mmh. Ça améliore aussi le côté professionnel. En tout cas, très 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 ravi d'apprendre ces choses. Merci vraiment de t'être ouvert également sur ce point et de nous avoir donné aussi beaucoup plus d'aperçus sur comment les choses se passent. C'est vraiment très 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 instructif pour nous également. Merci beaucoup Ludovic.
Merci John à toi pour cette invitation et au plaisir de rééchanger ensemble.
Bien sûr, bien sûr. Merci Ludovic. Peut-être juste pour finir, s'il y a des gens qui aimeraient te contacter, comment ils font? Sur LinkedIn peut-être? Ou bien le site web d'Eloa?
Exactement, les deux, c'est bien. LinkedIn, c'est parfait en direct. Et je répondrai avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Ludovic. Ce fut un échange très agréable. Merci pour ton temps.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.